Idée, Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour notre conversation avec un auteur afin d'évoquer un parcours intellectuel, une pensée, une œuvre par exemple. Aujourd'hui, c'est le parcours, la pensée, l'action, le combat d'une femme singulière que nous allons prendre le temps de comprendre. Nous allons parler en effet de Flora Tristan. Ce nom ne vous dit peut-être rien. Dans une heure, vous saurez tout ou presque de cette combattante, j'en fais le pari, de cette militante qui a vécu 40 années au 19e siècle et qui se considérait comme un être à part. À part car appelée à donner voix aux oubliés de l'émancipation, comme le note notre invitée Brigitte Krulik qui vient de lui consacrer une biographie. Flora Tristan, redécouverte lors du bouillonnement révolutionnaire des années 70, plus d'un siècle après sa disparition, alors une martyre et icône des luttes féministes et ouvrières était née, ajoute Brigitte Krulik. Idée, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio ou votre plateforme préférée afin de l'écouter quand vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous y abonner pour le recevoir chaque semaine. Bonjour Brigitte Krulik.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Vous êtes professeur des universités, spécialiste des courants d'idées au 19e siècle. On vous doit notamment une biographie de Tocqueville en 2016, dont nous avons parlé ici même six ans déjà. Il est possible de retrouver ce numéro d'ailleurs dans nos archives sur la page de l'émission sur le site de RFI. Vous nous proposez aujourd'hui une biographie de Flora Tristan chez Gallimard. Quelle femme ?
Oui. Exactement.
Quelle femme singulière.
Oui, un être à part, comme vous l'avez dit, quelqu'un qui se sentait investi d'une mission, quelqu'un qui a eu une vie extrêmement aventureuse et qui a su faire de ses handicaps de départ une force qu'elle a mise au service de ce qu'elle appelait sa mission.
C'est une femme, Brigitte Krulik, qui a vécu dans la première partie du 19e siècle.
Voilà, elle est née en 1803, elle meurt en 1844.
Donc une vie courte.
Une vie courte, mais une vie intensément vécue, une vie très remplie, une vie consacrée à des voyages et surtout fondamentalement, essentiellement, au combat qu'elle n'a cessé de mener.
Combat pour les ouvriers et combat pour les femmes.
Voilà.
Les deux mêlés. C'est ça. Alors, son originalité, dites-vous.
Voilà. Alors, son originalité, c'est qu'elle considère qu'il est impossible d'émanciper le genre humain sans émanciper les deux composantes du genre humain, les hommes et les femmes. Et elle a une très belle formule où elle dit que bon, il faut faire sonner le 89 des ouvriers. Elle n'est évidemment pas la première ni la seule à le dire, mais elle dit qu'on ne pourra pas faire sonner le 89 des ouvriers tant qu'on n'aura pas fait sonner aussi le 89 des femmes. Les deux, comme vous l'avez dit, sont indissolublement liés.
Car la révolution, en effet, n'est pas loin. La Révolution française, 1789.
Hein. Oui.
Donc là, elle est née en 1803.
Oui, c'est une enfant de la Révolution. Comme beaucoup de ses contemporains, quel que soit d'ailleurs leur bord politique, elle a été amenée à prendre position par rapport à l'héritage de la Révolution, qui est encore une mémoire vivante. Les parents de Flora Tristan, bon, elle n'a pas connu son père ou très peu, mais les parents de Flora Tristan ont vécu la Révolution. Donc il y a une mémoire vivante donc, qui pèse sur sa formation, son évolution jusqu'à l'âge adulte, et surtout comme la plupart de ses contemporains, elle va être amenée à se demander en quoi l'héritage de la Révolution française est encore vivant, en quoi l'héritage de la Révolution française doit être repensé ou réadapté. Et ça, c'est la toile de fond absolument indispensable. Mais là encore, tous les contemporains de Flora Tristan partagent cette mémoire de la Révolution française.
On va évoquer sa vie, Brigitte Krulik, mais il faut déjà dire qu'elle se considérait un peu comme une paria.
Oui, elle se sentait une paria parce que, effectivement, ses débuts dans la vie avaient été extrêmement, extrêmement difficiles. Elle se retrouve à 4 ans, orpheline de père, bâtarde, pauvre. Elle vit, elle passe son enfance et sa jeunesse dans des conditions précaires de pauvreté, et elle se sent reléguée du fait de l'injustice de l'ordre social, donc aux marges de la société, et donc elle se sent une paria. Alors, sa force, son originalité, c'est de retourner l'épithète de paria, qui est dépréciative, et d'en faire une sorte d'étendard de la révolte. Paria elle est, paria elle se revendique, et c'est le sens de son messianisme, c'est-à-dire que c'est précisément parce qu'elle est une paria que, donc elle est à l'échelon le plus infime de la société, elle est exclue de la société, et c'est précisément à cause de cela qu'il lui incombe à elle de porter donc la révolte, et de porter surtout la promesse donc d'une émancipation et d'une amélioration des conditions de vie.
Vous avez employé un mot important pour la comprendre, c'est messianisme.
Oui, Flora Tristan est marquée par les courants messianiques qu'on retrouve d'ailleurs chez un certain nombre d'écrivains, de penseurs de 19e siècle en France, mais pas seulement en France, en Europe, en Allemagne, en Pologne, par exemple. Et donc, son messianisme, c'est l'idée, alors d'une part, donc, ça renvoie à l'idée de Messie, hein, elle se sent donc investie donc, d'une mission, elle est en quelque sorte à l'avant-garde des luttes qu'elle souhaite mener, et aussi dans l'idée de messianisme, il y a cette idée d'inversion de la perspective. C'est justement le plus malheureux ou la plus malheureuse des malheureux qui est appelé à ouvrir la voie.
On peut dire que sa vie personnelle n'a pas été très heureuse. Vous venez de parler du fait qu'elle a été orpheline à l'âge de 4 ans. Et ensuite, son enfance, puis son mariage n'ont pas été particulièrement enchanteurs, c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, alors Flora Tristan, effectivement, quand on regarde sa biographie, on a l'impression qu'elle concentre sur elle beaucoup de malheurs, enfin, notamment dans le contexte du temps. Elle est la fille donc d'un couple qui est socialement désassorti, enfin très mal assorti, donc un Péruvien créole, donc espagnol, hein, faisant partie de la minorité, de l'élite espagnole, donc qui joue le rôle politique, économique central au Pérou. Je rappelle que quand elle naît, le Pérou est encore une colonie espagnole pour encore plusieurs années. Donc, sa mère est une fille du petit peuple parisien, donc le couple est socialement donc mal apparié, et surtout, le couple n'est pas marié, n'a pas fait régulariser son union religieuse à l'état civil. Et du fait, le mariage n'a pas de valeur légale, et Flora Tristan se retrouve bâtarde, avec toutes les conséquences donc que ça implique à l'époque. Donc, on peut comprendre qu'elle ait pu se sentir donc une paria à qui un certain nombre de portes sont fermées par la société. En plus, le père donc meurt quand elle a 4 ans. La mère se retrouve démunie à la fois financièrement, socialement. Elle élève sa fille manifestement dans des conditions qui ont dû être difficiles. Donc, elle est orpheline, elle est bâtarde, elle est pauvre. Et à l'âge de 17 ans, elle conclut un mariage.
Pas très heureux.
Voilà, pas très heureux.
Avec un certain Chazal.
Voilà, elle épouse le patron du petit atelier où elle est coloriste. Elle colorie des étiquettes pour des parfumeurs, par exemple. Et le mariage s'avère très vite absolument calamiteux parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur, de tempérament, de conception entre cette jeune fille qui elle se marie quand elle a 17 ans, cette jeune fille qui est manifestement une personnalité exceptionnelle, et ça se manifeste donc
dans
déjà
domaines,
à l'époque, dans tous les domaines, et le mari qui effectivement ne comprend pas du tout la personnalité de la femme à laquelle il est marié.
Et donc leurs rapports vont être violents, ça va même mal se terminer.
Alors le mariage est calamiteux d'emblée. Ils ont 3 enfants en 4 ans, un peu plus de 4 ans, et Flora Tristan donc se sent acculée à une décision qui, dans le contexte de l'époque, extrêmement audacieuse et lourde de sens, elle va, sous un prétexte, quitter le domicile conjugal en emmenant ses enfants. Elle est enceinte de son troisième enfant, qui sera donc Aline, qui sera la mère de Gauguin. Et elle va se cacher pendant plusieurs années parce que bon, le divorce a été aboli en 1816. Le code civil confère à la femme un statut de mineur, hein, on peut bien le dire, hein, donc un statut très, très, très inférieur qui confère au mari donc, le droit de ramener la femme fugitive par la force publique. Donc, elle se retrouve dans une situation très, très difficile. Pendant des années, elle doit se cacher en province. Elle exerce des petits métiers pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Et à son retour du Pérou, son mari va retrouver sa trace. Donc là, on est déjà en 1835. Et il va essayer de l'assassiner après lui avoir enlevé les enfants. Alors, je passe sur des épisodes rocambolesques. Et elle ne sera débarrassée de lui qu'à l'issue du procès d'assises qui va le condamner à 20 ans de prison.
Donc, c'est cette tentative d'assassinat sur sa personne qui va lui permettre de se séparer définitivement de ce Chazal. Vous parliez du Pérou. Ça, c'est une étape très, très, très importante. Pourquoi a-t-elle décidé, à l'orée de la trentaine, elle avait une trentaine d'années, après avoir vécu cette vie familiale très, très, très compliquée, pourquoi a-t-elle décidé un jour, c'est pas passé du jour au lendemain, de partir au Pérou, sur la terre, sur la trace de son père, en fait.
Voilà, ouais. Alors c'est effectivement un cheminement. On imagine très bien qu'elle a été bercée dans son enfance des récits que sa mère, qui elle n'avait pas été au Pérou, mais qui avait donc entendu les récits donc de son mari, donc
qui avait connu un certain Simon Bolivar, non, en plus,
voilà, exactement. Alors le père de Flora et la mère de Flora Tristan ont été amis avec Simon Bolivar, ce que Flora ne manquera pas de rappeler lorsqu'elle essaiera de prendre pied sur la scène littéraire. Bolivar est une référence extrêmement prestigieuse.
Le père de l'émancipation de l'Amérique latine.
Voilà, le Libertador. Oui. Bon, c'est quand même une grande figure de l'histoire du 19e siècle. Et donc, effectivement, elle sera très fière de pouvoir revendiquer donc, des liens familiaux avec Bolivar. Alors, son enfance a été manifestement bercée donc, des récits sur la prestigieuse lignée péruvienne, donc élite créole, immensément riche, appartenant donc à cette caste, on peut employer le terme, donc qui se flatte d'avoir le sang pur, le pur sang espagnol, c'est une expression qu'elle reprend. Et donc, très probablement, lorsque la mère et la fille croupissent dans un grenier mal chauffé rue du Fouarre, qui est le quartier très pauvre de Paris à l'époque, on peut imaginer que donc elle se berce donc de l'espoir qu'un jour Flora pourra accéder à une partie de l'immense héritage de la famille Tristan. Alors, la mère essaye d'écrire, elle écrit au frère donc, du père, à l'oncle de Flora Tristan, ouais. Voilà, Don Pio, qui est un personnage extrêmement important dans la vie politique et qui sera un personnage important dans la vie politique péruvienne de la première moitié du siècle, pour soliciter de l'aide. Bon, et alors, on est obligé de, on peut pas entrer dans tous les détails.
Il faut brûler les étapes parce qu'il y en a beaucoup. Il faut lire le livre déjà, parce que on entre dans une période de sa vie qui est aventureuse.
Voilà, et c'est extrêmement rocambolesque. Alors il y a des coïncidences, il y a des signes du destin. Un roman feuilleton n'oserait peut-être accumuler autant d'épisodes romanesques que la vie de Flora Tristan.
A commencé Brigitte Krulik par la traversée.
Voilà.
Alors il fallait des mois. Hein,
voilà. Alors elle décide de s'embarquer avec un double objectif. Le premier objectif.
Et là nous sommes en 1833, là,
voilà,
une trentaine d'années,
exactement.
Je le disais.
Elle part le jour de ses 30 ans. Il y a un double objectif. Premier objectif, c'est de se faire reconnaître comme une fille de la famille. Donc, on peut comprendre que pour quelqu'un qui s'est senti paria, orpheline, aux marges de la société, c'est important de se faire reconnaître symboliquement.
Notamment auprès de l'oncle.
Voilà, auprès de l'oncle, qui est le frère cadet de son père, qui est une figure de substitution, clairement. Donc, elle attend énormément, donc, sur le plan affectif, on va dire, et sur le plan symbolique. Mais elle attend aussi, bien sûr, de pouvoir accéder à une partie significative de l'héritage qui est considérable. La famille est extrêmement riche. Le berceau de la famille est à Arequipa et donc Flora va s'embarquer en laissant ses enfants en France. Elle va s'embarquer seule femme à bord, donc à bord d'un voilier. La traversée va durer 133 jours. C'est un récit absolument, là encore...
Parce qu'elle a le mal de mer, la pauvre.
Elle a le mal de mer. Elle va découvrir à l'escale du Cap-Vert la réalité de l'esclavage. Elle observe effectivement les esclaves au Cap-Vert. Elle en verra d'autres dans les plantations sucrières au Pérou. Elle décrit sans aucune concession l'état de dégradation physique, mais aussi morale dans lequel ils vivent. Il faut quand même dire qu'elle est d'emblée... abolitionniste. Par exemple, soutenir les campagnes de boycott menées en Angleterre contre le sucre pour justement essayer de casser les reins aux mécanismes sur lesquels prospère l'esclavage.
Et lors de son séjour au Pérou, Brigitte Krulik, Flora Tristan obtient une espèce de pension auprès de l'oncle, le fameux oncle.
Alors, l'oncle Pio, alors lui, avant même son départ, l'oncle Pio lui avait consenti une pension annuelle, qui lui permet de vivre convenablement. C'est sans commune mesure avec les ressources qu'elle espérait obtenir. Au Pérou, elle va effectivement être accueillie dans la maison familiale. Elle va effectivement, sa rente annuelle va lui être confirmée, mais elle va échouer à se faire reconnaître comme fille légitime de son père. L'oncle, qui est un juriste, n'admet pas que... elle n'a pas le même statut qu'un enfant issu d'un mariage en bonne et due forme. Elle est confrontée... c'est une forme d'échec, mais qui va l'aider à mûrir, à affiner son projet.
Elle a profité, Flora Tristan, de son séjour pendant des mois au Pérou pour regarder, observer, décrire, et notamment, et là vous avez un chapitre qui est passionnant là-dessus, notamment le rôle des femmes au Pérou, les femmes, singulièrement à Lima, oui, la capitale.
Voilà, alors elle va se consoler de ses déboires familiaux, relatifs, mais déboires quand même. Elle va se consoler en se faisant enquêtrice sociale. Elle va observer, elle va surtout noter ses observations parce qu'elle a déjà, bien sûr, l'idée de d'écrire un livre à partir de ce qu'elle aura observé au Pérou. Donc là, le voyage au Pérou, c'est vraiment l'étape essentielle, c'est le voyage initiatique qui va faire de Flora Tristan, ce qu'elle deviendra à son retour. C'est une femme de lettres, une enquêtrice sociale et une militante. Alors, elle observe une réalité, en ce qui concerne les femmes, elle observe une réalité qui est une réalité très contrastée. Alors, d'un côté, les femmes de l'aristocratie créole qui ont une existence, confinée à des rôles très traditionnels, qu'elles jugent avec sévérité, et auquel elle ne veut pas se soumettre, elle va observer aussi à Lima quelque chose qui va, pour elle, extrêmement étonnant. Elle note que les liméennes ont une liberté de mouvement qui est absolument inconnue de leurs sœurs européennes. Elles font du cheval, elles nagent, elles lisent le journal pendant les séances du Parlement. Elles viennent comme elles veulent grâce à un vêtement qui est une sorte de demi-voile, pourrait-on dire, qu'elle décrit avec beaucoup de minutie, qu'on appelle la saya, et qui leur permet donc... grâce à un relatif incognito, de sortir sans être reconnue. Alors ça, c'est quelque chose qui l'amuse beaucoup, qui l'intéresse beaucoup, et qu'elle décrit de manière très très détaillée dans Les Pérégrinations d'une paria, donc qui est le livre consacré à sa vie. C'est une autobiographie, et c'est aussi un récit de voyage, donc l'expérience péruvienne.
C'est son premier livre.
Alors, pas exactement, elle a fait paraître une brochure à son retour en 1835, mais c'est vraiment le livre qui la propulse sur la scène littéraire lorsque le livre paraît, donc en 1838.
1000 livres d'aventure, 1000 livres de réflexion.
Oui, c'est ça. C'est une autobiographie. Elle raconte son parcours personnel. Elle raconte le voyage vers le Pérou et le voyage au Pérou, donc avec des épisodes absolument rocambolesques, extrêmement intéressants à lire, ce que pouvait être un voyage au Pérou pour une jeune femme pas du tout préparée à traverser la cordillère des Andes à dos de mule. Bon, donc c'est extrêmement pittoresque, extrêmement intéressant. Mais en même temps, c'est une réflexion déjà qui s'amorce sur le rôle que les femmes peuvent jouer dans la société.
Vous écoutez le magazine Idée et cette semaine nous parlons de Flora Tristan en compagnie de Brigitte Krulik qui signe une biographie de Flora Tristan aux éditions Gallimard. C'est un tournant pour elle ce voyage. Elle ne sera plus la même quand elle reviendra en France après ce voyage.
Tout à fait, parce que bon, d'abord, on peut imaginer que bon, plusieurs mois d'un séjour pareil, dans des conditions, elle a été obligée quand même de vaincre obstacle après obstacle. Elle a observé une réalité que très peu de ses contemporains ont pu observer. Et donc, effectivement, elle n'est plus la même. Et en même temps, elle est habile. Elle comprend que. Elle a, grâce au témoignage qu'elle va pouvoir apporter sur son voyage et sur le Pérou, ce qu'est le Pérou, qui vient juste d'être indépendant, hein, c'est vraiment la toute jeune république péruvienne qu'elle a observée, elle va pouvoir prendre pied donc, sur la scène littéraire et aussi le voyage au Pérou qui lui a permis de voir les énormes inégalités sociales, les clivages ethniques, elle a découvert une société qui est une société profondément inégalitaire et ça va donc déterminer son engagement et notamment ça l'incite à prendre contact avec tous les milieux qu'on pourrait appeler progressistes dans le Paris de la fin des années 1830, après 1835.
Ah, il faut s'arrêter, Brigitte Krulik, sur ce milieu progressiste. Et, le communisme n'est pas encore apparu, enfin, il n'est pas encore dans sa forme politique, le socialisme non plus. On parle à l'époque d'un socialisme utopique. Quelles sont les grandes idées qui circulent à son époque, quand elle revient du Pérou, qui vont la nourrir ? Et qu'elle voudra défendre.
Oui, c'est exactement cela. Donc, à l'époque, on ne parle pas de socialisme utopie, mais plutôt on parle de réformateur moderne. Et c'est toute l'école, alors qui remonte quand même déjà au début du siècle, qui est l'école de... Alors, il y a différents grands noms, notamment celui de Saint-Simon et de ses disciples. Il y a le nom de Charles Fourier. En Grande-Bretagne, il y a le nom de Owen. Donc, ils ont pour point commun... la volonté... Alors, on parlait tout à l'heure de la Révolution française. Ces penseurs ont comme point commun l'idée que la Révolution française qui a émancipé donc, le citoyen n'a pas réussi à penser de manière différente les liens humains. ce qu'on pourrait appeler le lien social. C'est-à-dire que l'individualisme, qui est effectivement le moteur, le principe de la Déclaration des droits de l'homme donc de 1789, a rompu les maillons de la chaîne, hein, pour reprendre une expression de Tocqueville, mais en rompant, en émancipant, en brisant la chaîne, donc en consacrant la liberté des individus, a renvoyé chacun et chacune à la loi de la concurrence. Et donc l'ordre social, estime les réformateurs modernes, et après eux Flora Tristan, est un ordre social qui renforce les inégalités et qui les invite à penser les moyens de combler ce fossé entre les membres bien lotis de la société et ceux qui restent au bord du chemin.
Qui restent au bord du chemin. Et vous écrivez, Brigitte Crudy, que le talent et l'originalité de Flora, ça commence à s'exprimer, c'est son attitude à se placer à l'entrecroisement de plusieurs courants d'idées, la question sociale, la foi humanitaire, la défense des droits des femmes, les relations entre l'art et la société.
Oui, alors effectivement, c'est ça son talent, c'est qu'elle a une capacité pour une autodidacte, hein, il faut le signaler, hein, pour une autodidacte mais qui a énormément lu et qui est d'une intelligence extrêmement brillante, elle a l'art de puiser dans ses lectures, mais aussi dans ses rencontres, elle a l'art de puiser les outils qui vont lui permettre de frayer son propre chemin. Elle refuse jusqu'à la fin de sa vie, elle refuse de s'inféoder à une école de pensée précise. Elle s'inspire des Saint-Simoniens, elle s'inspire surtout des Fourieristes, des partisans de Owen, elle a des contacts avec les féministes qui, dans les années 1830, fondent des journaux. Alors, le terme n'existe pas à l'époque, hein, le terme féministe n'apparaîtra qu'à la fin du siècle. Mais, les auteurs hommes et femmes qui s'impliquent pour la défense des droits des femmes participent de ce qu'on pourrait appeler le féminisme.
Pour schématiser, tous ces penseurs que vous venez de citer, je pense notamment à Fourier, veulent créer des communautés, organiser des communautés idéales, des phalanstères pour Fourier, voilà. Par exemple. Il s'agit de ça à l'époque,
de faire ça. Voilà, alors bon, je pense que c'est le terme de socialisme utopique renvoie effectivement à cette volonté de créer des lieux de vie qui sont en même temps des lieux de travail, hein, les deux ne sont pas véritablement dissociés, donc je pense notamment soit le couvent de Ménilmontant pour les Saint-Simoniens, qui a suscité d'ailleurs beaucoup de moqueries à l'époque parce que il y avait des aspects anecdotiques qui faisaient sourire, mais surtout peut-être le phalanstère de Fourier qui apparaît comme une forme utopique au sens de qui n'existe pas mais qui présente un modèle ouvrant la voie vers une société meilleure.
Et l'on va voir dans un instant, grâce à vous, Brigitte Krulik, que Flora Tristan a voulu créer une union ouvrière. On va s'y attarder. C'est son œuvre, son grand œuvre. Mais auparavant, il nous faut parler également d'un autre voyage marquant, moins long et d'un autre genre, qui fut son voyage à Londres. Elle en a fait plusieurs, mais l'un d'entre eux, en 1839, lui a permis de décrire, d'analyser la société anglaise de l'époque en pleine révolution industrielle, avec tout ce que ça suppose.
Oui, vous avez tout à fait raison. Alors là, lorsqu'elle part pour Londres, c'est vraiment avec l'idée qu'elle va aller glaner des matériaux.
Alors là, les reporters.
Exactement, ou enquêtrice sociale. Et là, vraiment revendiquée, elle l'écrit, elle dit « j'y vais pour réunir des matériaux, pour écrire un livre qui fera du bruit ». Alors, à la différence du voyage au Pérou, la Flora Tristan qui traverse la Manche n'est plus une débutante. D'abord, elle a une expérience de vie, une expérience intellectuelle, elle a publié, elle n'est plus une inconnue, mais elle a aussi des contacts très précieux en Grande-Bretagne, parmi les exilés politiques français, par exemple. Je rappelle que Louis-Napoléon Bonaparte, à l'époque, est exilé à Londres et donc réuni autour de lui des des personnes qui commencent à songer donc à un bel avenir pour lui. Elle rencontre des républicains en exil français, puis elle va rencontrer des chartistes anglais, elle va rencontrer des partisans de Owen, elle va rencontrer des, ce qu'on appelle des philanthropes. Donc elle a des contacts sur place qui vont l'aider à vraiment bien cibler, si on peut dire, les visites qu'elle va faire. Parce que ce qui l'intéresse, c'est effectivement se comporter en enquêtrice sociale et elle ne va pas visiter les beaux quartiers.
Non, elle va au cœur des usines et d'ailleurs vous publiez un extrait de ses promenades dans Londres qui est le livre qu'elle va écrire à son retour, publié en 1840. Voici un extrait de ses promenades dans Londres. « Rien de plus terrible, de plus majestueux que ces bouches vomissant des flammes. Rien de plus magique que cette cave soudainement éclairée par les charbons ardents qui se précipitaient comme du haut d'un rocher les flots de la cataracte et comme eux s'engouffrent dans l'abîme. Rien de plus effrayant que la vue des chauffeurs qui ruissellent, de même que s'ils sortaient de l'eau et sont éclairés devant et derrière par ces horribles brasiers dont les langues de feu paraissent s'avancer sur eux comme pour les dévorer. » Je ne distinguais plus les bouches des fours qu'à travers ce nuage qui rendait les flammes plus rouges, les lames de feu plus effrayantes, les corps des chauffeurs, de blancs qu'ils étaient, devinrent noirs, et ces infortunés qu'on aurait pris pour des diables se confondirent dans ce chaos infernal. Dites-moi, quel talent !
Oui, c'est un très beau livre, avec de très beaux passages qui évoquent ce qu'on pourrait appeler l'enfer. Enfin, là, ce que vous venez de lire, l'enfer, c'est explicite d'ailleurs, l'enfer de la révolution industrielle. Alors, il faut préciser qu'elle n'est pas hostile en soi à l'industrialisation et au progrès technique. Tout au contraire. Ça, c'est un trait qu'elle partage, par exemple, avec les Saint-Simoniens, hein, qui vont jouer un rôle important.
Oui, c'est le progrès.
C'est le progrès. Alors, ce qu'elle critique de manière très, 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 très radicale, ce sont les conditions de vie calamiteuses des ouvriers qui sont exploités donc dans ces dans ces usines qui sont de véritables visages donc des représentations de l'enfer. Hein. On pense, elle préfigure la description du voreux dans Germinal, le monstre qui avale les êtres humains. On pense à des représentations de l'enfer comme dans les tableaux de Jérôme Bosch. Enfin, bon, c'est vraiment un très beau texte, très superbement écrit. Elle va donc visiter des usines, elle va étudier les conditions de travail des employés, le fait que par exemple il n'y a pas de salle de repos, enfin elle entre dans le détail. Il ne faudrait pas croire que Flora Tristan c'est une songe-creux, c'est au contraire, elle a toujours le souci, et c'est même d'ailleurs sa première préoccupation, elle a le souci de proposer des solutions concrètes.
Oui, parce que ce voyage n'est pas le voyage d'un reporter. Je disais qu'il y a une part de journaliste chez elle, de reportrice, mais elle a aussi quelques idées en tête en faisant ce voyage, c'est-à-dire qu'elle voudrait construire quelque chose.
Voilà. Alors, elle veut, en écrivant les promenades dans Londres, elle veut faire ce qu'elle appelle le diagnostic, c'est-à-dire elle veut montrer l'état, qui est calamiteux, catastrophique, de la société. Alors, ce qui est important, pourquoi Londres ? Parce qu'elle considère, donc, Londres, c'est...
c'est le symbole de la ville industrielle.
C'est le symbole de la révolution industrielle, il y a effectivement, la France a un décalage par rapport donc à la Grande-Bretagne, l'industrialisation est moins avancée en France, même si elle progresse, elle va progresser vite à partir des années 1840.
C'est ça, mais donc l'Angleterre, il faut rappeler que nous sommes un peu avant le milieu du 19e siècle.
On est au tout début du règne de Victoria, on est dans le Londres, d'ailleurs il y a des passages là aussi magnifiques, on est dans le Londres de Dickens, avec les troupes d'enfants qui fouillent la boue de la Tamise. Bon, il y a des descriptions de la pauvreté du prolétariat qui sont absolument saisissantes. Et alors, elle écrit ce livre parce qu'elle veut montrer que, contrairement à ce qu'on pourrait croire naïvement, la révolution industrielle et le progrès technique n'améliorent pas le sort des ouvriers, ce qu'elle appelle la classe ouvrière. Au contraire. Et donc, elle veut montrer ce que c'est en réalité pour alerter les ouvriers français de ce qui les attend. Donc ça, c'est très important. Elle veut aussi, donc ça, c'est le diagnostic. Et donc, la solution viendra un peu plus tard part avec, à son retour avec l'Union ouvrière.
Alors parlons de son retour, car les minutes filent. Brigitte Krilic, dans ce numéro d'idées que nous consacrons à Flora Tristan, la dernière œuvre, c'est peut-être d'ailleurs la finalité de sa vie, c'est ce que l'on a appelé l'Union ouvrière. Comment naît cette idée d'Union ouvrière, sachant qu'elle naît en partie au départ grâce aux compagnons, ceux que l'on appelle les compagnons?
Voilà. Alors, Union ouvrière, c'est à la fois le titre d'une brochure qu'elle va rédiger,
où elle expose, 1843, voilà, qui sera publiée où elle en 1843, expose, donc un an avant sa mort.
Voilà, ouais. Où elle expose donc ses idées, ce qu'elle appelle le remède. Hein, après le diagnostic vient le remède. Mais Union ouvrière, c'est aussi l'idée. Hein, c'est vraiment le remède. C'est à la fois le titre du livre et puis ce qu'elle appelle l'idée mère, c'est-à-dire l'idée centrale qu'elle propose comme remède à la misère ouvrière. Alors, il y a une idée qui est très importante, c'est que sa perspective, c'est une perspective sociale. Elle, ce qui l'intéresse, c'est la redéfinition des relations humaines, notamment dans le monde du travail. C'est le droit, la reconnaissance du droit au travail, et c'est l'association. C'est l'idée que pour reconstituer le lien social qui a été disjoint par la Révolution et qui livre les ouvriers à une concurrence acharnée qui fait baisser les salaires, enfin qui les oppose les uns aux autres et qui empêche toute amélioration de leur sort, elle a l'idée donc de l'union. Le mot veut bien dire ce qui veut dire union, c'est que les ouvriers et les ouvrières, alors là je la cite parce qu'elle prend soin de toujours parler des ouvriers et des ouvrières, puisque on l'a dit tout à l'heure, l'émancipation donc des ouvriers ne se fera pas sans l'émancipation des femmes. Leur cause est commune. Et il y a l'idée que le malheur actuel de la classe ouvrière, l'absence de perspectives concrètes, est due au fait qu'elle est disséminée, qu'il y a éparpillement d'un côté les différents corps de métier, de l'autre les rivalités qui sont des rivalités dues tout simplement à l'origine géographique, les Limousins contre les Parisiens, contre les Berrichons, et que donc le malheur vient de là et qu'il faut, alors c'est ça l'idée, que la classe ouvrière prenne conscience qu'elle constitue une unité et que en tant que unité, elle pourra ainsi faire valoir ses droits. Alors, elle contacte les différentes structures. Enfin, si le terme de structure, oui, ne convient pas, parce que il faut quand même rappeler qu'à l'époque, rien
tout
ne
tout est à faire.
Voilà, il n'existe pas dans un contexte très très répressif. Il est qui bride la liberté d'association, la liberté de la presse de manière vraiment très 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 importante. Rien qui ressemble à un parti politique et à un syndicat n'existe. Les associations ouvrières sont vraiment très très strictement contrôlées. Elles sont aux marges de la légalité. Donc c'est une idée qui en soi est révolutionnaire. C'est une idée qui appelle donc à surmonter ces divisions pour prendre conscience que la classe ouvrière, c'est plusieurs millions d'individus et c'est la force vive du pays.
Et cette Union ouvrière, ce livre publié en 1843, est à la fois une réflexion là aussi, mais aussi un livre qui organise un mouvement avec ses buts, son organisation. Elle va même, écrivez-vous dans le livre, Brigitte Krilic, jusqu'à imaginer un lieu, une sorte de phalanstère, si je puis m'exprimer ainsi, où naîtrait le monde, un embryon de monde idéal selon elle, selon ses vœux, selon ses idées.
Oui. Voilà. Alors, elle a effectivement... Alors, il faut préciser que Union ouvrière... Alors, tout à l'heure, on a cité Saint-Simon, Owen, Fourier. Elle, justement, elle veut faire quelque chose. Elle veut écrire un livre qui est complètement différent. Elle dit, elle ne veut pas écrire sur les ouvriers, mais elle veut écrire pour les ouvriers. Ouais. Et donc, comme elle dit, s'adresser, aller leur porter le livre au fond des casquettes. Alors, l'image, elle est très forte. Ça veut dire qu'il faut choisir un vocabulaire simple. Et l'idée principale, c'est qu'il faut être efficace. Donc, ce n'est certainement pas un ouvrage théorique qui nécessite de longues années d'études et de longues réflexions pour être compris. Alors, il y a donc l'aspect, donc l'idée, on en a parlé, mais cette idée, elle a une application pratique. Et c'est ce qu'elle appelle les palais de l'Union ouvrière, qui sont donc, oui, c'est un lieu de, c'est un système associatif qui offre un asile aux ouvriers et ouvrières malades, âgés, ayant eu des accidents. C'est un système d'école. C'est bon. Là, l'idée n'est pas entièrement nouvelle, puisque bon, effectivement, il y a des références aux phalanstères ou bon aux conceptions, enfin aux réalisations que Owen a essayé, entre autres, a essayé de mettre en place. Mais il y a aussi toute une structure qui préfigure celle du syndicat, c'est-à-dire donc avec des comités locaux. Alors, ce qui est très intéressant, alors qui fonctionne grâce à une cotisation que chaque adhérent, c'est-à-dire que chaque ouvrier et ouvrière sera amené à payer. Donc c'est un montant qui est modeste, mais qui est malgré tout significatif. Donc chacun s'engage. Il y a l'idée que l'émancipation ne se fera que par les ouvriers eux-mêmes et non pas par le biais d'interventions de bourgeois ou du gouvernement, même si l'appui des bourgeois et du gouvernement sont tout à fait souhaitables et bienvenus. Donc système de cotisation, comité local, les femmes seront amenées à jouer un rôle et ensuite échelon par échelon jusqu'à un comité, donc à l'échelon national, qui sera ce qu'on pourrait appeler une force de lobbying. Bon, le terme évidemment est complètement anachronique, mais ça fait comprendre, c'est-à-dire une force de pression qui influencera le Parlement, qui influencera les patrons pour qu'on prenne des dispositions, notamment pour le droit au travail et l'association.
Là, nous sommes dans la France de Louis-Philippe, donc avant la révolution de 1848, et elle va se lancer dans un long tour de France
Pour
défendre ses idées. Et là aussi, vous faites un récit qui est absolument merveilleux de ces rencontres de ville en ville avec les ouvriers, plus ou moins réussies, mais des rencontres quand même.
Oui, alors voilà, ça aussi, c'est une idée qui est
extrêmement
audacieuse.
Cette femme seule se lance dans un tour de France.
Audacieuse, audacieuse, parce qu'il faut se la représenter. C'est une femme encore jeune qui a l'air probablement, même si elle est habillée simplement, d'une bourgeoise. À l'époque, on reconnaît de très loin le bourgeois. On fait la différence entre le bourgeois et l'ouvrier. La bourgeoise est, par exemple, la domestique ou l'ouvrière. Donc, ça se voit à toutes sortes de détails, au corps, aux positions, aux gestes, à l'habillement, à la manière d'être. Donc, elle va se lancer sur les routes de France. Alors, l'idée du Tour de France est bien sûr inspirée
des compagnons
du Tour de France. Et elle a l'idée, donc elle part de manière tout à fait aventureuse. Elle va prendre la diligence, elle va prendre la péniche, elle va prendre
tous les moyens possibles
et imaginables, même une première ligne de chemin de fer dans des conditions là encore tout à fait pittoresques, parce qu'elle veut présenter elle-même sa brochure. Elle veut organiser des réunions avec les ouvriers. Alors là, elle a besoin effectivement des contacts locaux avec les compagnons du Tour de France, avec les sociétés unionistes, avec les républicains, avec les cabétistes, avec les vétérans des insurrections de Canut à Lyon. Donc elle s'appuie, elle a constitué un réseau effectivement qui est tout à fait, qui est indispensable, mais qui est qu'elle a su constituer. Et elle organise dans des conditions très difficiles parce que elle est surveillée par la police, qui va perquisitionner, qui va confisquer ses papiers. Elle organise des réunions dans des conditions très difficiles, parfois dans l'arrière-salle d'un cabaret, là où elle peut, pour présenter son idée donc d'union ouvrière et convaincre les ouvriers de fonder les sections locales, ce qu'on pourrait appeler les sections locales de l'union ouvrière.
Et c'est donc dans le cadre de ce Tour de France, Brigitte Krulik, que sa vie va s'interrompre.
Voilà.
À Bordeaux,
voilà.
Un certain 24 septembre 1844.
Voilà, elle arrive à Bordeaux, elle tombe malade, elle ne s'est jamais vraiment bien remise sans doute de la blessure donc de liée à
la tentative d'assassinat de son mari.
Elle est épuisée, à bout de force, et effectivement, elle n'ira pas plus loin que Bordeaux. Le Tour de France donc s'interrompt et la carrière militante de Flora Tristan s'interrompt également brutalement.
Je disais pour commencer l'émission que c'était une femme singulière. Quelle femme, disais-je ? Vous écrivez « La force et la faiblesse de Flora, c'est sa conviction de détenir la vérité. Transiger, c'est in fine trahir la cause des ouvriers. » Une femme intransigeante.
Alors, c'est une femme, oui, voilà, c'est une passionnée. Et le terme passionnée est à prendre au sens le plus fort qu'on peut lui donner. C'est une passionnée qui ne vit que pour sa cause, qui se sent effectivement investie d'une mission et qui est prête à sacrifier, mais absolument tout ce qu'elle a, et ben, in fine sa vie, et elle le fait d'ailleurs, à sacrifier sa vie pour promouvoir son projet. Donc, c'est quelqu'un qui investit toutes ses forces, son intelligence, sa santé dans
c'était sa vie. Hein. Vous faites la description de son testament et de ce qu'elle a laissé de sa maison, en fait, à Paris. Il y avait trois fois rien. C'était c'était pas du tout le...
Voilà.
Ça l'intéressait pas. Ça.
Voilà, c'est une vie qui est absorbée par la cause. C'est vraiment... Elle ne recule devant aucun sacrifice. Alors, c'est un peu le défaut de la qualité, si on peut dire. C'est comme tous les gens qui ont une passion chevillée au corps. Elle est très exigeante envers elle-même. Elle est aussi exigeante envers les autres. Et
pas facile.
Voilà, c'est une personnalité affirmée. Ce qui nous la rend d'ailleurs plus proche, parce que voilà, elle est humaine. Elle a des moments d'exaltation, elle a des moments de découragement. Il y a des moments où effectivement, elle secoue les ouvriers. Elle trouve qu'ils ne vont pas assez loin. Ils sont misogynes souvent. Ils n'acceptent pas qu'une femme vienne leur faire la leçon. Donc voilà, et elle n'hésite pas à donner son avis de manière très très franche, au risque parfois effectivement de froisser quelques susceptibilités.
Alors une œuvre, un combat qu'a probablement connu Marx, qui n'était pas encore le Marx d'après à l'époque, Brigitte Krulik, et on va terminer avec ça, elle a rejailli Flora Tristan en quelque sorte en France dans les années 70 mais du 20e siècle, après 1968.
Voilà. Alors, ça a été le tournant décisif parce que, bon, elle est morte très jeune pour toutes sortes de raisons. Son héritage est passé, est tombé dans un trou noir. Et donc, à part quelques traits, il y a eu effectivement quelques travaux qui lui ont été consacrés au tout début du XXe siècle. Mais globalement, Flora Tristan reste assez largement inconnue jusque dans les années 1960, surtout 1970.
Il faut dire pourquoi. Donc elle devient
le féminisme.
Et oui.
Voilà. Alors ça, c'est effectivement... Alors aussi bien d'ailleurs en France qu'aux États-Unis notamment, ou en Grande-Bretagne, il y a beaucoup de travaux, en Amérique latine bien sûr, il y a des travaux, donc des thèses, des articles, des livres qui vont être consacrés à Flora Tristan, parce qu'elle devient, comme vous l'avez dit tout à l'heure, une sorte d'icône du féminisme et aussi figure pionnière du syndicalisme. Donc là, il y a effectivement une sorte de renouveau de Flora Tristan qui revient sur le devant de la scène. Et il suffit d'ailleurs de faire une rapide recherche sur Internet pour voir qu'il y a beaucoup de cercles de femmes ou d'associations de femmes maltraitées, en détresse, qui portent le nom de Flora Tristan. Donc ce n'est évidemment pas un hasard.
Alors, une plaque commémorative a été placée à Bordeaux par une de ses fidèles, en fait, quelque sorte, disciple, non ?
Alors, sa disciple, oui, Éléonore Blanc.
Et là, nous retournons au XIXe siècle, puisqu'il
voilà,
s'agit d'une plaque...
Voilà, on retourne au XIXe siècle. Alors, elle espérait qu'une jeune blanchisseuse qu'elle aimait beaucoup reprendrait le flambeau et donc pourrait poursuivre son héritage. Bon,
Hélène Brion,
Hélène Brion, effectivement, alors là, c'est un petit peu plus tard, oui, elle a consacré effectivement un texte très intéressant à Flora Tristan, mais qui est resté quand même confidentiel. Alors, il y a eu une souscription donc, pour lui élever un tombeau à Bordeaux, donc au cimetière de la Chartreuse. Et effectivement, je trouve que c'est une bonne manière de résumer un peu l'œuvre de Flora Tristan. Donc, le tombeau reprend donc, la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, et ajoute deux fois solidarité. Là, on est en 1848, bien sûr. Bon, la solidarité est le maître mot qui résume les espoirs donc, de la Révolution de février. Et effectivement, la vie de Flora Tristan est placée sous le signe de la solidarité.
Merci Brigitte Krulik. Flora Tristan, c'est le titre sobre de votre biographie publiée donc chez Gallimard.
Merci beaucoup à vous.
Idée réalisée évidemment par Vanessa Rovansky, un magazine que vous pouvez télécharger sur le site de la radio ou votre plateforme de streaming préférée. Afin de l'écouter quand vous le voulez, vous pouvez également vous y abonner. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une semaine d'actualité et dimanche pour de nouvelles idées. Dans un instant, un journal sur RFI.